RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous et bienvenue à Gevrey-Chambertin, lieu d'arrivée de la 7e étape du Tour de France dans les vignes de Bourgogne, les grands crus. Nous avons assisté à un nouveau grand cru aujourd'hui dans cette 7e étape du Tour de France, remportée donc par Remco Evenepoel, le jeune prodige belge, 24 ans, champion du monde de la spécialité, qui remporte son premier succès sur les routes du Tour. Et à 24 ans, il est désormais détenteur de victoires sur les trois grands tours, Giro, Vuelta et donc Tour de France. Remco Evenepoel et Poul qui reprend 12 secondes à Tadej Pogacar. Est-ce que ça va suffire pour en faire un véritable adversaire pour Tadej Pogacar pour la victoire finale dans le Tour? Toute l'équipe de l'After est à mes côtés. Cyril Guimard. Bonsoir Cyril.
Bonsoir à tous.
Jérôme Coppel.
Et là,
notre spécialiste à nous du chrono qui avait fait mieux quand même que Kevin Vauclin à son époque, on le rappelle. Quatrième d'un chrono du Tour de France.
Hein, oui, il y a longtemps.
Depuis, je crois qu'on n'avait pas vu un Français aussi bien classé.
Julien Alaphilippe en a gagné un, quoi.
Oui, c'est vrai. Oh, excuse-moi, Julien.
Ouais, mais il a eu du pot ce jour-là.
Oh, elle est bonne.
Ouh. Ah oui, c'était ta peau. J'avais complètement
quel
oublié.
Quel talent.
Pierre-Yves Leroux.
Il dit qu'il perd la mémoire, en fait. Il a toutes les stats.
Comment tu t'appelles?
il a un peu de mal avec les identités, moi aussi d'ailleurs.
Bonjour, Jean-François.
Les vieux de l'After. Et Arnaud Souk qui est avec nous, qui descend de la moto. Salut Arnaud.
Salut les amis.
À 24 ans et donc pour sa première participation, le champion du monde du chrono remporte sa première sur le Tour de France, ce chrono de 25 km 300 qu'il a réglé avec une vitesse astronomique. C'était tout à l'heure dans l'intégral Tour. Tadej Pogacar qui semble peut-être battu dans cet exercice du chrono. On savait Remco très fort. Pogacar a fait jeu égal jusqu'à présent. Tadej Pogacar qui est à fond. Il n'arrivera pas à reprendre les 10 secondes. C'est Remco Evenepoel qui va s'imposer sur ce contre-la-montre entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. La première victoire pour le Belge et surtout un petit avantage psychologique.
Ça fait mal.
Mais en ce qui concerne le maillot jaune, eh bien Tadej Pogacar est en train de faire une belle opération puisqu'il va reprendre du temps encore à Vingegaard. Top, c'est fait, le temps ne pourra plus être battu, le maillot jaune va être derrière, il va sans doute prendre la deuxième place. On regarde sur la ligne d'arrivée ici à Gevrey-Chambertin, il y aura exactement 12 secondes 36 centièmes de retard pour Tadej Pogacar. Remco Evenepoel remporte le contre-la-montre. Oui, applaudissements nourris évidemment pour Remco Evenepoel qui à 24 ans remporte donc sa première sur le Tour. On rappelle que c'est son premier Tour de France et que jusqu'à présent il nous régale. On était pas complètement convaincus après le Dauphiné avec des joues un peu épaisses pour Remco. Il a perdu voire 1,5 kg depuis la fin de ce Dauphiné et aujourd'hui il est performant. Il remporte donc cette victoire. On l'attendait, Jérôme, voilà, mais encore faut-il être à l'heure au rendez-vous. Eh bien, il a répondu présent, victoire en 28 minutes 52 secondes.
Ouais, il a répondu présent. C'est jamais facile quand vous êtes le grand favori, c'est votre premier tour. Vous voulez aller chercher la première victoire d'étape. Il y avait une énorme pression quand même sur les épaules de Remco Evenepoel. Il a répondu présent, c'est aussi ça les grands champions. Niveau écart, c'est un peu ce qu'on pensait, entre 10 et 15 secondes à peu près, donc c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas fait pourtant le chrono parfait, Remco Evenepoel, quand même les courbes, que ça soit dans les descentes avec son vélo de route ou un vélo de chrono, c'est quand même pas toujours ça les trajectoires. Heureusement qu'il est très très fort et quand même il a eu une petite frayeur où on a cru qu'il avait un ennui mécanique, mais physiquement il était au-dessus des autres aujourd'hui.
On imagine qu'il travaille ça, mais il y a encore un peu de boulot. Hein. C'est vrai que les lignes ne sont pas parfaites, hein. Les sorties de virage, etc. Bon, il a eu son petit problème mécanique aussi. Cyril, il peut gagner quoi, 10-15 secondes sur un chrono comme ça s'il travaille un peu?
Peut-être pas, parce que 15 secondes, c'est
beaucoup.
Énorme.
C'est énorme.
Sur l'ensemble, des erreurs de trajectoire ou des erreurs même d'approche des virages, plus son petit incident, moi je pense que sur un parcours comme ça, entre 5 et 10 secondes, c'est prenable.
Et il met 34 secondes à Jonas Vingegaard, notamment à 37 secondes pardon, à Jonas Vingegaard. Il faut savoir que Remco Evenepoel, il l'avait reconnu une dizaine de fois, ce chrono, avant aujourd'hui. Donc quand même, malgré tout, il était dans les trajectoires, il était dans les très bonnes trajectoires, et moi j'ai pu en témoigner sur la moto, ce qui était moins le cas de Jonas Vingegaard, qui lui ne l'avait pas du tout reconnu. Et c'était quand même assez technique hein, à part endroit, Jérôme.
Ouais, c'était ultra technique, mais ce qui est marrant, c'est ce que tu dis, c'est qu'il l'a reconnu plein de fois, et il a quand même fait un paquet d'erreurs de trajectoire, finalement. Alors, un paquet, j'exagère un petit peu pour un coureur de ce calibre qui est aussi pointilleux que ça. Alors déjà, il a pris les deux premiers virages complètement à l'envers. C'est complètement trompé. Et puis un dernier virage, là, 3-4 km de l'arrivée, où là, vraiment, alors il relance très très fort, mais il perd quand même pas mal de vitesse à l'entrée des cours.
Il est long, vraiment très proche des balustrades dans ce virage. À gauche, c'est celui-là.
Ouais, exactement, c'est celui-ci. Donc voilà, heureusement qu'il est encore perfectible. Il a que 24 ans, Remco Evenepoel. Et ça... J'ai presque envie de dire, c'est le plus facile à gommer, ces petites erreurs de trajectoire. Ce qui est plus dur à gommer, c'est d'avoir une très bonne position, d'avoir la bonne puissance, d'être ultra aéro, ça, et de savoir gérer son effort sur un chrono. Ça, il a déjà tout ça en magasin. Remco Evenepoel,
oui,
il ne reste plus que les trajectoires.
Sauf que si on prend son premier kilomètre, il n'a fait que des erreurs de gestion.
Ouais. Bon, la pression peut-être de cette volonté d'aller chercher cette
trop,
première victoire.
Trop nerveux, manque de calme, il relance trop fort, il oublie qu'il faut relâcher beaucoup plus tôt avant un virage, plutôt que d'arriver et de se jeter sur les freins, qui fait que tu rentres pas sur la bonne trajectoire et que tu vas te mettre en difficulté et tu sors beaucoup moins vite du virage. Alors, et en plus... vous n'allez pas chercher les 2 ou 3 secondes de récup avant le virage, puisque vous arrivez trop vite dans le virage. C'est-à-dire que, alors, il y a un principe simple. Si tu es obligé de freiner, ça veut dire que tu as mis de l'énergie que tu balances à la poubelle. Voilà. Et ça, il nous a fait ça pendant tout le premier kilomètre. Heureusement qu'il est très fort, parce que derrière, il faut être capable de remétaboliser et de repartir. Sur le plan de la gestion, il faudra quand même revoir beaucoup les choses.
Arnaud, en étant derrière lui, on voit vraiment une différence par rapport aux autres coureurs que tu as si vu dans la puissance, dans la ligne de Remco.
Je suis vu que des spécialistes, donc c'est difficile à dire, parce que j'étais derrière Kung, derrière Vingegaard, qui me paraissait très... Alors, à l'exception de Wout van Aert. Pour le coup, Wout van Aert, j'ai vraiment vu qu'il paraissait pas tôt aujourd'hui. C'était assez criant, et d'ailleurs, je sais plus comment il perd, mais plus d'une minute sur Remco Evenepoel. Mais non, on sentait vraiment qu'il y avait quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui est assez incroyable avec Remco Evenepoel quand il fait le chrono, c'est sa position. Sa position sur le vélo, tu vois qu'il y a quand même quelque chose qui est mieux que les autres, quoi. Il a une pénétration dans l'air qui est parfaite. Il a le dos qui est quasiment parfaitement plat, aligné avec le casque profilé. Ouais. Et ça, c'est pas le cas notamment de Tadej Pogacar, hein, qui a d'autres qualités, mais c'est moins le cas de Tadej Pogacar.
Mais c'est vraiment un neuf, hein, Remco Evenepoel sur le vélo. C'est vraiment une boule. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Mais pas tous les coureurs peuvent le faire. D'une, alors la souplesse, la morphologie, la taille. Si on prend un Stefan Kung, par exemple, il est magnifiquement bien posé sur son vélo, mais il ne pourra jamais
il
avoir...
Il prend plus devant.
Il prend un peu plus devant. Pour revenir aux trajectoires, par exemple, tu parlais de Stefan Kung que tu as suivi. Lui, alors, il a eu son problème mécanique, mais sinon, il fait un chrono ultra propre. Les trajectoires sont prises vraiment bien à la corde et tout, à l'inverse d'un Remco Evenepoel, par exemple. Mais c'est vrai que niveau position, voilà, il n'y a rien à jeter chez Remco. C'est le coureur qui est le mieux posé au monde, je pense.
Pour Kung, sans son problème...
Tu penses qu'il aurait gagné l'étape ?
Non, il faisait 3.
Il faisait 3, d'accord. C'est pas mal, mais c'est toujours le cas avec Stefan Kung. Il lui manque tout petit quelque chose, et puis là, en plus, il n'a pas été verni. Alors, Pierre-Yves, on sait que Remco est une bête à chrono depuis son plus jeune âge. Il a pris l'habitude de régler tout le monde en contre-la-montre. Il a quasiment pas d'adversaire. Peut-être Filippo Ganna, c'est le seul.
Okay. Oui. Bah, après, il n'a pas pu le faire avant ses 17 ans, puisque vous le savez, il était sur les terrains de foot, oui. Spécialiste d'un autre sport. Il jouait à un très haut niveau, mais dès sa deuxième année sur un vélo et dans la catégorie junior, excusez du peu, il s'aligne au départ des championnats du monde, d'Europe et de Belgique du chrono, et sur route aussi, hein. Et il remporte les 6 titres, que ce soit les chronos ou la route, et il a tellement d'avance, je vous raconte l'anecdote parce que c'est pas sur un chrono, mais il a tellement d'avance sur le championnat d'Europe sur route en République tchèque, qu'il élimine presque tous les autres concurrents parce qu'il leur prend un tour, et il y en a que 50 qui terminent sur les 167. Oui, ça pose problème, hein, quand
vous finissez. Oui, mais il était pas très bien parce qu'il a pas pu prendre 10 minutes.
Non, il a pris 9 minutes 43 au deuxième et au troisième, un certain Carlos Rodriguez quand même, c'est c'est pas n'importe qui. Et il s'impose ce jour-là, effectivement, avec près de 10 minutes d'avance. Lors de sa saison suivante, pour sa première année pro, il remporte le championnat d'Europe du chrono avec une vingtaine de secondes d'avance sur des spécialistes comme Stefan Kung et justement Philippe Ogana. Un Philippe Ogana à qui il met 45 secondes quelques semaines plus tard lors du championnat du monde, malgré sa défaite face à Ron Dennis. Et depuis 2020, c'est vrai que le Belge a remporté 15 contre-la-montre individuels. Il n'y a que Ganna qui a fait mieux sur cette période. À 24 ans, avec une victoire d'étape dans les trois grands tours, il est désormais le 109e coureur à réussir cet exploit. Et Remco est désormais définitivement dans la cour des grands, on peut le dire.
Évidemment, quand tu remportes une étape dans les trois grands tours à seulement 24 ans, ça vous place le mec quand même. Cyril, toi, tu l'as vu très jeune dans l'une des premières courses qu'il disputait. Il était junior, je crois. Et dès ce jour-là, tu as été impressionné par le garçon. Hein.
Bah, pas que moi, d'ailleurs, tout le monde, surtout les coureurs. C'était sur le trophée Centre Morbihan. Et dès le premier jour, ça castagne un peu au début, comme toujours. Et puis, il se met à monter des bosses en tête. Il demande le relais, personne ne veut le prendre, mais ils avaient déjà du mal à suivre. Et puis, à un moment, il est sorti avec un Italien dans la roue. Peu de temps après, l'Italien a avalé son bulletin de naissance et il finit tout seul avec 3 minutes et quelques sur le deuxième et presque 4 minutes sur le peloton. Donc autant dire que le classement général était plié. Mais c'était impressionnant.
C'était impressionnant et dès le départ, on savait qu'on avait affaire là à un prodige. Alors un prodige qui a connu quand même des fortunes diverses depuis qu'il est coureur cycliste, avec notamment cette chute terrible dans le Tour de Lombardie qui l'avait quand même un peu retardé dans sa progression. Derrière, il a quand même remporté la Vuelta, il s'est aligné au Giro, il n'a malheureusement pas pu le terminer. Et puis lors du dernier Dauphiné, qui était sa course de rentrée après sa chute autour du Pays Basque, eh bien on l'a vu briller sur certaines étapes, Arnaud, mais il lui manquait quand même quelque chose. Il lui manquait, ou peut-être qu'avait-il quelque chose en trop. Ouais. Hein, c'était son poids. Depuis, on ne reconnaît pas son visage. Il a perdu du poids.
C'est vrai. Hein. Et alors, je l'ai croisé là tout à l'heure en zone mixte, effectivement. C'est assez impressionnant de voir à quel point il a le visage, j'allais dire les traits tirés, non pas tirés de fatigue, mais les traits tirés par la maigreur, justement, de son visage. Et rappelons quand même que c'était sa course de reprise sur le critérium du Dauphiné, qu'il arrive, qu'il gagne le chrono sur le Dauphiné, que derrière, il n'est pas si mauvais que ça, il résiste pas si mal que ça en montagne sur des étapes et des profils d'ascension qui en plus ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on va emprunter sur le Tour. On va être quand même sur des montées qui sont beaucoup plus régulières et qui conviennent un petit peu mieux, enfin je sais pas, tu m'arrêtes si je me trompe Jérôme, mais je pense qu'ils conviennent un petit peu mieux aux qualités de Remco Evenepoel, qui est plus un coureur qui va fonctionner au watt, qui va faire très attention justement à la puissance qu'il développe, qui va jamais se mettre dans le rouge.
Ouais, il se met jamais dans le rouge.
Non, il gère très bien son effort, c'est pour ça qu'il est si fort en contre-la-montre, mais il a gagné le chrono du Dauphiné, mais sans, enfin personnellement il m'avait pas fait une grosse impression vraiment sur ses qualités pures, c'est-à-dire voilà, c'est le champion du monde du chrono, il sait gérer son effort, mais il m'avait pas fait une grosse impression à l'inverse d'aujourd'hui par exemple, où on voyait tout de suite qu'il était vraiment très très costaud. Bien sûr, il avait le poids en trop, c'était sa course de reprise et on sent qu'il est vraiment en train de monter en puissance. Voilà, franchement, pour l'instant, le tour est encore long, mais pour l'instant, il fait un début de tour vraiment excellent, parfait. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à acheter pour Remco Evenepoel jusqu'à maintenant et il a déjà une victoire d'étape.
Et on le remercie hein, parce qu'il va nous créer un petit peu de suspense. Alors peut-être qu'on vend la peur, on vend la peur à Tadej Pogacar et peut-être que la peur il va nous la renvoyer en pleine tronche lors de la première étape dans les Pyrénées.
On va voir, mais il va quand même garder un œil sur Remco Evenepoel.
Ouais, je pense.
On écoutera tout à l'heure Poggi, mais effectivement il dit bon, il va falloir que je le surveille quand même.
Il peut se passer n'importe quoi après-demain sur les chemins de.
Et l'appétit vient en mangeant.
Alors ouais, on sera plus sur le terrain quand même de Poggi quand même.
Oui, non, mais bon après il peut se passer quand même n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir regarde ce qui est arrivé à Vingegaard il y a 2 ans à Roubaix.
Ou à Pogacar hier dans le coup de bordure, il était tout seul. Hein. S'il lui arrive un pépin là, peut-être qu'il perd le tour. Hein.
Moi, je suis Pogacar. En tout cas, je ne laisse pas 2 minutes d'avance là aujourd'hui à Evenepoel.
Ah non, c'est sûr. Il ne va même pas lui laisser 30 secondes. Même pas une seconde. Je pense qu'il va être collé à la roue.
Non, il se méfie, mais à mon avis, il n'est pas très inquiet quand même.
Ah bon ?
Non. Il se méfie, mais il n'est pas très inquiet. Enfin...
Il l'a déjà affronté dans un grand tour ?
Non, jamais.
Sur la haute montagne, il sait qu'il a quand même un avantage sur Remco. Oui. Voilà, même s'il a 2 kilos de moins, Remco.
Et si Remco il en perd encore 2, Là, le match est inversé.
Ouais, enfin, rien que dans San Luca, on a vu que Remco n'était pas là.
Oui. Ouais, mais parce qu'il y a un problème de placement. Et c'est quand même le seul qui bouche le trou. Hein. Mm. Problème de placement. Attention, il bouche quand même le trou. Quand il rentre dans la route Pogacar, c'est là où il attaque dans San Luca. Il se fait distancer et rentre après sur le plat. Il marchait quand même.
Dans le Galibier, c'est un problème de placement ?
Non,
mais dans la descente du Galibier, il était bien placé pour attraper tout le monde.
Mais ça ne va pas jouer en descente, le Tour de France. Hein. Ça va se jouer en montée.
Très bien. On voit que tu restes dubitatif quant aux chances d'Evenepoel de remporter ce Tour de France. En tous les cas, tout à l'heure, à l'arrivée, eh bien, on avait un Remco tout sourire. On l'écoute.
Il faut être satisfait. Je suis super content avec la performance et le résultat d'aujourd'hui. Donc, il faut être content. C'est un moment spécial dans ma vie, dans ma carrière. Donc, c'est là que je complète la trilogie, comme on dit. Donc, très satisfait, très content et très fier aussi. Je pense que Tadej aussi connaissait le parcours très bien. Probablement Primoz Jonas aussi. Donc, c'est toujours quelque chose de plus, mais je pense que c'est pas la différence qui s'est faite aujourd'hui, mais c'est toujours les jambes qui parlent. On peut faire le parcours autant de fois qu'on veut. Si les jambes ne sont pas là sur le jour même, il n'y aura pas de résultat. Donc c'est toujours les jambes qui parlent.
Remco Evenepoel, 24 ans, qui dispute là seulement son premier Tour de France. Alors on parlait des jeunes génies du cyclisme qu'on hésite à mettre sur le Tour à 20-21 ans. Lui, eh bien, le Fevert a attendu qu'il ait 24 ans, qu'il atteigne la maturité pour l'aligner au départ du Tour de France. Cyril, est-ce que la gestion de Evenepoel a été bien orchestrée par son manager ?
Eh bien, elle s'est surtout adaptée, parce que on l'a déjà évoqué. Sa chute dans le Tour de Lombardie l'a quand même arrêté plus de 6 mois et qu'il a fallu pratiquement 1 an pour qu'il revienne à son meilleur niveau. S'il n'y avait pas eu cette chute, rien ne dit qu'il n'aurait pas déjà été au Tour de France l'an dernier. Mais cet arrêt long prolongé suite à son accident fait que, bah, après, on prend plus de précautions. Et petit détail, c'est que le premier grand tour qu'il a fait en reprise, c'est le Giro qui était là une très grosse erreur.
Pourquoi ? Parce qu'il l'a fait.
Parce qu'il n'était pas prêt.
Il n'était pas prêt, oui. Ouais, on se rappelle de ça.
D'ailleurs, il a abandonné à la 18e étape. Hein. Enfin, il n'a pas pris le départ de la 18e étape, quand, sa course de reprise après sa chute.
Et puis Patrick Lefebvre a toujours eu ce discours-là. Il ne voulait surtout pas le cramer, quand même. Même si là, il y a peut-être eu une erreur.
Ça ne veut rien dire, cramer.
Non, mais il voulait qu'il soit au niveau pour pouvoir disputer la victoire au Canard, peut-être. Mais pas en faire un battu d'entrée.
Peut-être qu'il n'avait pas le passé.
Attendez, excusez-moi, mais le problème, il est un petit peu différent. Il faut se rappeler ce qu'on a dit il y a 3 ans, 2 ans, 1 an, y compris au niveau de Julien Alaphilippe. Il n'avait pas l'équipe pour faire le tour.
C'est vrai.
Il n'avait pas l'équipe pour emmener un grand leader sur un Tour de France.
Il n'était pas obligé de faire le tour en tant que leader. Il aurait pu y aller découvrir, gagner des étapes et prendre de l'expérience. Non,
Evenepoel qui gagne. Tu m'as montré tout à l'heure le palmarès de Evenepoel. Evenepoel, c'est le coureur qui est capable de gagner.
Il n'a jamais été programmé pour être équipier.
Il est capable de gagner 10 courses.
Pas équipier, mais d'aller à la chasse des étapes au début.
10 courses de suite dans toutes les étapes, des courses à étapes quand il était amateur. Non, ouais. Il ne peut pas prendre le départ du Tour pour faire du tourisme.
Non,
il peut partir que pour gagner.
Et d'ailleurs, il a quand même gagné son deuxième grand tour auquel il a participé, Remco Evenepoel, le Tour d'Espagne. Oui, voilà, il a le Giro où il a repris après sa chute, il abandonne. Son deuxième grand tour d'Espagne, il le gagne. Quoi.
Ouais. En connaissant aussi des défaillances d'ailleurs. Enfin, il a notamment connu une défaillance dans une étape qui s'était terminée à plus de 2000 mètres d'altitude.
Et du coup, il est à 24 ans, pas le plus jeune, mais l'un des plus jeunes coureurs.
Quatrième. Ouais, exactement.
Il y en a quand même qui...
24 ans et 162 jours. Il y a trois qui ont fait mieux.
Tu as les noms ?
Non, j'ai pas vérifié, mais on peut imaginer que...
Faut demander à Pierre Amiche, il a écrit un bouquin là-dessus.
On peut imaginer qu'on va retrouver peut-être un Eddy Merckx, un Bernard Hinault, sur les trois grands tours, non ?
Non, il n'a pas fait le Giro. Bon. Le Giro, il l'a fait plus tard.
On verra ça.
Je vais essayer de trouver ça.
On va essayer de trouver ça. En attendant, tu vas quand même nous rappeler les résultats, les classements. Donc, une victoire et 12 secondes de repris à Pogacar. On va donc voir ça en détail avec toi.
Remco Evenepoel, vainqueur de l'étape, donc avec 12 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. 34 secondes sur Primoz Roglic. C'est un petit peu la surprise. Jonas Vingegaard est quatrième à 3 secondes de Roglic et à 37 secondes de Evenepoel. Victor Campenaerts, ça fait aussi un très bon chrono. Il est à 52 secondes à la cinquième place. Et surtout, on retient la sixième place de Kevin Vauclin, lui aussi à 52 secondes. Ça, c'est une vraie révélation, même si on connaît ses qualités. Mais il entre là dans le top 10 sur le Tour de France. Et puis au classement général, il y a quelques petits changements, puisque Tadej Pogacar est désormais à 33 secondes devant Remco Evenepoel, et surtout 1 minute 15 désormais de débours pour Jonas Vingegaard, 1:36 pour Primoz Roglic qui est en quatrième position. Et je vous le disais tout à l'heure lors du direct, il faut aller très très loin pour trouver le premier français, qui est toujours Guillaume Martin, la 24e place à 7:41.
12 secondes de reprise, alors c'est pas énorme, mais ça lui permet de revenir, tu le disais Pierre-Yves, à 33 secondes de Poggi au classement. Ça en fait aujourd'hui le principal adversaire de Pogacar pour la victoire dans le Tour. Tout le monde est d'accord là-dessus ?
Ouais, tout le monde est d'accord. Bon, il est deuxième. Donc, c'est celui qui est le plus proche. Oui, ça en fait le principal adversaire, sans négliger Vingegaard et Roglic. Et je dirais surtout Roglic plus que Vingegaard, qui me semble quand même pas en capacité de pouvoir jouer la victoire.
Ça fait déjà deux rendez-vous manqués, j'ai envie de dire, pour Jonas Vingegaard, qui perd aujourd'hui donc 37 secondes, qu'on avait déjà perdu plus d'une trentaine dans l'étape du Galibier. On a l'impression, alors même si l'objectif de la Visma Lease Bike, en tout cas en façade, c'était de dire il faudra être fort en troisième semaine, et c'est vraiment ce qu'on vise. Et d'ailleurs, Jonas Vingegaard, qu'on a pu voir tout à l'heure en
fourmi, on en parlera tout à l'heure,
nous l'a dit, mais bon, ça va être compliqué quand même pour lui.
Faut pas qu'il perde 30 secondes tous les 4 jours, parce que sinon, en dernière semaine, l'addition va être un peu salé. Moi, je le trouve quand même pas mal, pas si mal que ça quand même, Vingegaard, que ça soit sur le Galibier ou aujourd'hui sur le chrono, parce qu'avec ce qu'il nous avait montré en bas de la descente du Galibier, ça aurait pu être encore pire aujourd'hui. Donc, il limite quand même pas si mal la casse, Jonas Vingegaard. Maintenant, il est quand même un bon cran en dessous de Pogacar, même d'Evenepoel, c'est vrai, mais comme l'a dit Cyril, je pense qu'il faut garder un œil sur Roglic aussi. C'est toujours nos quatre fantastiques. Ils sont tous là. Alors, et personne n'est complètement éliminé.
On va détailler après les performances des autres. Restons sur Remco et Poggi. Il restera un dernier chrono à disputer. Ce sera lors de la dernière étape entre Monaco et Nice. Il est un peu plus long que celui d'aujourd'hui, mais moins favorable à Remco parce que plus pentu, je crois. Sera pas du
tout. Oui, il y a la Turbille, Col d'Aise notamment. Il n'y a pas beaucoup plus de dénivelé positif, il me semble, quand même. Sur ce chrono, là, on était sur du 800, je crois, du 300 aujourd'hui.
Ouais, alors,
et je crois que c'est 800.
Là, on était aujourd'hui sur 300 mètres de dénivelé positif. Il y en aura 650. Chrono, mais il est quand même un petit peu plus long, il y a quand même 8 km de plus, alors il est beaucoup plus dur, alors plus favorable à Pogacar, c'est une bonne question, je suis pas sûr.
Il y a une grosse descente quand même. Il y a une grosse descente.
Il y a une très très longue descente, donc là de nouveau, rappelez-vous ce que Vingegaard avait dit dans la descente du Galibier, qu'il avait perdu du temps sur Pogacar par l'inertie, parce que Poggi était un petit peu plus lourd, donc là ça va bien sûr jouer aussi, parce qu'il y a quand même toute la descente du Col d'Aise pour aller à Nice, mais là on y verra déjà beaucoup plus clair, à mon avis.
Les écarts seront sans
alors
doute
nous
fait.
On aimerait que ça se joue sur le chrono, bien sûr, on adorerait ça. On adorerait ça, mais franchement, le profil, dur à dire lequel des deux. À l'heure actuelle, je ne saurais pas dire lequel des deux est favori.
Alors, d'ici là, évidemment, il y aura la montagne, il y aura les Pyrénées, il y aura les Alpes, il y aura même l'Auvergne dans quelques jours. Pour espérer inquiéter Poggi, il va falloir donc que Remco hausse son niveau en montagne d'un, deux, voire trois niveaux. Cyril, est-ce qu'il en est capable ? Est-ce que tu le sens capable de vraiment disputer les victoires dans les étapes de montagne à Pogacar ?
Aujourd'hui, sur les arrivées au sommet, je pense que ce sera difficile de reprendre du temps à Pogacar. De terminer avec lui sur les sommets, après, on connaît aussi les capacités de Pogacar en matière d'explosivité dans les 200 derniers mètres. Pour l'instant, seuls des événements de course pourraient faire basculer le tour. Mais les arrivées au sommet ne sont pas à l'avantage, quoi qu'il arrive, donc, de Evenepoel, je me répète. Il faudrait que Pogacar ait un jour sans et que Evenepoel puisse en profiter. Aujourd'hui, vraiment, ma boule de cristal est quand même pas très transparente.
Ouais, elle est un peu trouble, cette boule de cristal. Oui. Mon cher druide, bon, on va essayer de l'éclaircir d'ici quelques jours. On va, dans un instant, revenir donc sur Pogacar, battu, encore une fois, aujourd'hui, dans un chrono. C'est sa 4e défaite consécutive dans un chrono du Tour de France. Mais malgré tout, c'est lui qui fait quand même la bonne opération du jour par rapport à celui qu'il avait battu l'an dernier, Jonas Vingegaard, et par rapport à celui qu'il avait battu dans le contre-la-montre de la planche des belles-filles il y a de ça quelques années. Poggi reste le cador de ce Tour de France. On en parle dans un instant dans l'After Tour. A tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
L'After Tour.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Ah, le patron, c'est les rois.
Lidl ?
Eh oui, les rois de la bicyclette cet été sur les routes de France.
Mais comment ça ? Tu dérailles ?
Oh non, patron, ça roule. Lidl est co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
Quoi ? Lidl co-sponsor de l'équipe Lidl Trek ? Où j'en perds les pédales ?
Ah, ça, question sponsoring, ils en connaissent un rayon.
Là, t'as intérêt à mettre la pédale douce, hein. T'es mal, hein. Et tu l'auras pas, Béo. Volé.
Lidl, co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
En direct de Gevrey-Chambertin au terme de la 7e étape de ce Tour de France, chrono de 25 km 300, remporté donc et son premier succès sur les routes du Tour par Remco Evenepoel qui reprend 12 secondes à Pogacar au classement général. Poggi restera en jaune, il sera demain donc toujours leader de ce Tour de France avec 33 secondes d'avance. Alors, c'est un bon ou c'est un mauvais résultat pour vous de voir Poggi terminer deuxième ?
Très bon résultat.
Très bon résultat.
Très bon résultat.
Cyril ?
C'est le meilleur résultat qu'il pouvait avoir compte tenu de la puissance de Evenepoel.
D'accord, très bon résultat. Arnaud ?
Il aurait pu avoir mieux, mais c'est un très bon résultat.
Qui arrive ?
Oui, parce que c'est le résultat qui nous était prédit sur les quarts possibles.
On n'a pas eu de surprise. Avec... Voilà, on a pas eu de surprise, en fait, aujourd'hui.
Exactement. Tout a été clair. Ouais. Comme de l'eau de roche. Enfin, on en reparlera, mais c'est plus pour Vingegaard qui a peut-être un peu plus de débours que prévu.
Et tu le disais, il y aurait... Il ne devrait pas y avoir un gros écart dans ce chrono. Effectivement, ça s'est vérifié. 12 secondes, c'est pas énorme.
Bah non, c'est pas énorme du tout. On disait pas de gros écart entre Pogacar et Evenepoel. Hein. On se doutait que Vingegaard et Roglic allaient perdre un peu plus de temps. Voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de surprise sur le résultat de ce chrono. Pogacar a fait pour moi un très bon chrono avec les jambes qu'il avait aujourd'hui. Il perd que 12 secondes sur Evenepoel, le champion du monde. Mais dans l'objectif du classement général, il fait en plus une bonne affaire, Pogacar. Donc franchement, pour moi, c'est un très bon résultat pour lui.
C'est malgré tout sa 4e défaite dans un chrono du Tour. Jérôme.
Ouais.
Dernier succès, c'était à Laval en 2021.
Ouais. Ah, il avait écœuré Kung ce jour-là, je me souviens.
Ouais, exactement. Ouais, mais il se fait battre, mais il est toujours là. Il est toujours là.
Ah il termine toujours deuxième ou troisième.
Et pour gagner les grands tours, il faut être là partout. Il faut être là partout. Et voilà, il y a certains.
Et surtout dans les contre-la-montre.
Et surtout dans les chronos. Donc il ne les gagne pas, mais il est deuxième. Il est là, il est sur le podium.
Il perd, sauf l'année dernière où il avait perdu beaucoup de temps à Combloux, mais autrement, il ne perd pas beaucoup de temps quand il les
perd. Non, sinon, il est toujours là. Franchement, bien sûr qu'il est ultra complet. On sait. Il va de gagner un Tour des Flandres, il va te gagner un chrono du Tour et puis il gagne une étape de montagne. Donc c'est difficile d'être plus complet que Tadej Pogacar. Est-ce que vraiment, après, quand tu vises le classement général aussi, est-ce que tu prends tous les risques sur un chrono ? J'imagine que oui, j'imagine qu'il prend tous les risques, mais c'est pas le pur spécialiste non plus. Donc moi, je trouve que ses perfs en chrono sur le Tour, d'ailleurs, il sublime toujours sur le Tour. Ses meilleurs chronos, il les fait souvent sur le Tour.
Si je peux me permettre une petite parenthèse et revenir sur ce qu'on disait il y a quelques instants, j'ai le top 3 des plus jeune vainqueur de la triple couronne, on va dire. Nous avons un certain Dietrich Thurö allemand.
Dietrich Thurö, ouais.
Qui avait gagné en 78, qui avait complété donc ce trio en 78. Laurent Fignon en 1984 et Nino De Filippis en 1956.
Tu te rappelais pas de Fignon qui avait remporté ses...
C'est vrai que j'ai des trous de mémoire.
Ah, ça se voit, ça se vérifie. On va écouter tout de suite Tadej Pogacar qui reconnaît évidemment sa défaite, mais enfin il avait quand même un grand sourire. Poggi battu par le meilleur rouleur du peloton. Mais très satisfait.
Je suis assez content de ma performance aujourd'hui. À 12 secondes derrière le champion du monde, l'un des meilleurs, sinon le meilleur actuellement dans le monde, Remco. Donc je peux vraiment être content. Je sais que je peux faire mieux, mais oui, je dois dire que les jambes tournent bien, la forme aussi, et je peux être assez satisfait de ma journée.
Voilà, satisfait de sa journée, il en fait pas des tonnes, il est battu, hein, quand il est battu, il n'est pas content, Tadej. Hein,
c'est un champion.
Ah, c'est un champion.
C'est un champion, mais c'est des journées à risque hein, pour Tadej Pogacar. Il est très fort, mais ce n'est pas sa spécialité, c'est des longues journées hein, pour tout le monde déjà, le chrono, mais quand vous êtes un spécialiste ou que vous portez le maillot jaune, la journée, elle démarre tôt le matin, hein, le réveil musculaire ou la reconnaissance,
quand
etc.
Quand tu pars à 17h, tu dois te lever à quelle heure et tu dois commencer le réveil musculaire combien d'heures avant?
De toute façon, il ne va pas se lever à midi non plus, oui, hein, il va rester sur le rythme avec quand il y a des étapes classiques, mais il va aller faire sa reconnaissance, il va rentrer à l'hôtel, il va se reposer, il va aller manger 4 heures avant son départ. Donc c'est quand même des très longues journées, plus le protocole à la fin, le contrôle antidopage, etc. C'est vraiment des journées à rallonge et des fois vous montez 2, 3, 4 fois sur le vélo dans une journée comme ça. C'est vraiment une journée qui est entrecoupée. Et puis voilà, c'était quand même un chrono assez technique, il y avait quand même quelques risques, donc il a passé tout ça sans encombre.
Et surtout qu'il a un avantage, c'est qu'il passe après tout le monde.
Oui, donc c'est
il
sûr
est
que
informé.
Guirmay, il est parti dans les premiers, il a dû attendre. Ouais, à 18h en montée sur le podium quand même.
En plus, ça c'est un avantage. Non mais surtout en termes d'information, c'est quand même un avantage par rapport aux autres et je pense que c'est très important qu'il soit avec ce maillot jaune jusqu'au dernier chrono si par hasard c'était serré encore parce que c'est
bien
mieux
sûr.
Quand même de passer derrière.
Moi il y a un truc qui m'énerve par contre sur les chronos, rien à voir avec Pogacar, mais un truc qui me gave, c'est les chronos virtuels là qu'on n'a pas les temps intermédiaires. Je trouve ça tue le
en
suspense
plus, tu veux
du
dire,
chrono.
En plus des temps intermédiaires.
Là il y a c'était fini, on savait à 2 km que Pogacar il avait 10 secondes de retard. Ouais. D'ailleurs, on est capable d'annoncer Evenepoel vainqueur. Ça m'énerve, ça
oui,
m'énerve. Il n'y a plus de suspense, sinon là, on aurait été jusqu'au bout.
Il nous spoil, en quelque sorte.
C'est le problème.
Non, mais
alors,
faut
ça,
vivre
ça
avec ton temps.
Alors, pas là-dessus.
Tu sais, à une époque, il y avait des cabines téléphoniques aussi.
C'était très bien. Parce qu'on dit que le chrono, c'est chiant.
C'était mieux avant.
Je suis d'accord avec lui.
Non, mais on dit que le
chrono, parce que vous
ne
vivez pas avec votre époque.
Moi, j'adore le chrono. Je kiffe, c'est magique. Mes journées préférées, mais alors ça me saoule. Ça, déjà, le chrono, pour beaucoup, c'est pas sexy, mais si en plus, à 3 km de l'arrivée, tu sais déjà qui a gagné alors qu'ils sont qu'à 10 secondes, ça me saoule.
On a qu'à supprimer les chronos et on met
non,
pas de temps intermédiaire.
Non, c'est juste ces temps là. Les temps intermédiaires, on les laisse. C'est ces trucs de, en live là, d'un coureur à l'autre, ça me gaffe, ça m'énerve.
Attends,
ça tue
le suspense. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Oh, merci.
Mais, incroyable. Oui, sauf que tout le monde veut être mieux que l'année d'avant. On te sort
je
un
sais,
nouveau
je
truc.
Je sais que c'est pour bien faire,
bien sûr.
Mais moi, ça m'énerve.
C'est pour bien faire.
Et c'est pas fini.
Non, c'est, c'est pour montrer qu'on est peut-être plus intelligent que les gens qui ont vécu il y a 15 ans les mêmes événements.
Sauf qu'il y a quand même encore des erreurs dans ces chronos.
Mais
donc
en plus, donc mettez-les pas, laissez-nous du suspense, putain.
Et puis il se peut que de temps en temps, ça évolue. Donc au début, Vingegaard fait un très bon début de chrono. Il est dans des temps très proches de Evenepoel et même mieux que Pogacar. Et puis on s'aperçoit que finalement, il est peut-être parti vite et ça diminue.
Tu es d'accord avec moi ?
Mais non, on a des sources d'informations. Avant justement ce premier point intermédiaire. Et on n'aurait pas forcément eu cette sensation si on n'avait pas eu ces chiffres-là.
En tout cas, prépare-toi, Jérôme, parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant.
Non, mais je sais.
Justement, qu'est-ce qu'on aurait besoin pour l'avenir ?
Ah, mais alors là, déjà, je peux vous annoncer que normalement, ça devrait changer l'affichage, tout ce qu'on voit à la télé, tout l'affichage télé devrait changer à partir de Paris-Nice l'année prochaine. Et on est très en vue du côté de chez ASO de plein de choses qu'on voit, notamment sur la Formule 1, de mettre des statistiques partout sur les écrans. Et on travaille énormément là-dessus.
Bon, moi j'irai dormir.
Ouais, ça va. Ils vont réussir à me dégoûter.
La fin d'expérience qui va donc.
Mais c'est évident, Christophe. Il suffit de mettre des capteurs sur les vélos, des sortes de capteurs logiciels.
Oui, mais ils existent déjà.
Ils sont pas encore exploités à fond. Ouais.
Non, mais presque.
Mais oui, parce que par exemple, il y a le camion de.
Tu sais où se situe chaque coureur à chaque instant de la course, avec les écarts précis.
Oui, comme une course de voile, où c'est bien ça.
Mais bientôt, avec le camion de Visma Lisebike, on connaîtra le nombre de battements.
Oui, mais alors ça, je suis contre ça.
Ah, bah oui, mais ça.
On n'a pas à aller chercher et à montrer à tout le monde ce qui se passe à l'intérieur d'un organisme. Je suis désolé, ta fréquence cardiaque, elle t'appartient, t'as pas à la donner à tout le monde.
Non mais Visma, ils vont pas la mettre à la télé, hein, je
mais
te rassure.
Mais attends, mais ça avait commencé. C'est pas Visma qui a commencé, c'est la télévision qui a commencé.
Ouais. Et ça, c'est pareil, souvent ils montent les watts, c'est n'importe quoi.
Et ça veut rien dire. Ouais. La fréquence cardiaque, elle veut... Attends, quand on montre les fréquences cardiaques, On vous dit, ah ben tel coureur, il est à 160, l'autre, il est à 140, etc. Bon, ils sont pas au même endroit, ils sont pas avec la même aspiration. Mais c'est débile, je suis désolé, c'est débile.
Et puis la FC Max de quelqu'un n'est pas gage de performance, d'ailleurs.
Alors, c'est pire que ça. Vous savez que, enfin, il faut quand même le dire, depuis quelques années, je crois qu'il y a, eu des petits coups de frein qui ont été donnés, c'est qu'en fait, les équipes arrivent à capter les ordinateurs, les Garmin ou autres...
Des
autres équipes. C'est-à-dire qu'ils savent exactement si le mec, il est prêt à péter ou pas. Ils savent si leur mec, lui, il a encore de la marge ou pas. Et en fait, ils espionnent ce qui se passe dans l'organisme d'un autre coureur, d'un adversaire. Je trouve ça débile. Enfin, je trouve ça malhonnête.
C'est encore un coup des trolls russes.
Venant de celui qui, dans le peloton à une époque et dans les voitures de suiveurs, était le roi du bluff et réussissait toujours à avoir des petites informations et tout ça.
On est sur de l'espionnage médical.
Tu faisais des espionnages. Tu n'espionnais pas tes adversaires, toi.
Mais tu le fais avec tes yeux, avec ton nez, avec tes oreilles, ce que tu veux. Mais tu le fais pas en allant chercher des capteurs.
Mais si, parce que les temps ont changé, donc la technologie s'améliore. Oui, on n'a plus des espions maintenant.
Il y a un problème d'éthique.
Bon, alors
il y a
là,
un problème d'éthique.
Cyril nous parle
et tu n'as pas à aller vérifier ce qui se passe dans le corps de quelqu'un d'autre, à plus forte raison, dans une compétition où le plus fort doit gagner, mais y compris avec sa tête.
Alors, quelles étaient les stats et les datas de Jonas Vingegaard aujourd'hui? On a déjà un petit peu évoqué le cas du Danois qui termine donc quatrième, battu par Remco, battu par Poggi et battu également par Roglic. Lui qui, l'an dernier, rappelez-vous, avait dominé de la tête et des épaules le seul chrono du Tour entre Combloux et Passy, entre Passy et Combloux plus exactement. Ça doit être dur quand même pour lui aujourd'hui de voir qu'il est à 37...
Je sais pas.
Non ?
Je sais pas. Il revient
moi,
de loin quand même.
Pas eu ce sentiment-là. Alors du coup, moi, je l'ai vu en fond de ligne là. Après, il a passé un très long moment avant de passer le contrôle antidopage. Et vraiment, et c'est pas la première fois que je le vois depuis le début du tour. Moi, j'ai plutôt un gars souriant en face de moi qui a l'air honnêtement satisfait de ses performances.
Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, il a tout à gagner, Jonas Vingegaard, finalement. Parce que pour le même prix, il n'est pas au départ du Tour. Donc si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est sans surprise, finalement. Avec le niveau qu'il a, il a tellement dominé, il est capable, même s'il n'est pas à 100%, de faire le podium du Tour. Mais moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si vraiment il est affecté par ça. Pour moi, il a tout à gagner sur ce Tour de France. Et il va même gagner en popularité, parce que s'il ne le gagne pas, il sera plus aimé que quand il le gagne.
Évidemment, les battus sont les plus populaires en France.
Tu penses qu'au bout de cette étape, il dirait non, je suis vraiment pas en forme, je vais pas gagner le tour. On sait bien que de toute façon,
non,
ce qu'il se dit en fond de ligne.
C'est vrai, mais il pensait qu'au bout de 4 étapes, il allait prendre 2 minutes, et au bout de 7, il a 1:15. Donc finalement, il est mieux que prévu.
Oui, non, mais qu'il soit plutôt satisfait. En revanche, Wout van Aert, par exemple, qui n'est pas un leader.
Là, c'est autre chose. Ouais, alors.
Voilà, peut se permettre de dire, j'y suis pas du tout, quoi. Mais quand on est leader, il faut quand même un peu cacher son jeu.
Ouais, d'accord. Mais alors, moi, j'aurais plus l'adepte si je m'appelais van Aert que si je m'appelle Vingegaard.
Ah oui, on est d'accord.
Parce que là, c'est autre chose. Il a l'air vraiment pas top.
Il est pas au mieux. On va écouter Jonas Vingegaard que tu as rencontré, Arnaud, donc derrière la ligne d'arrivée. On va entendre finalement qu'il n'est pas si déçu que ça.
Pour être honnête, je pense que c'était un bon moment pour tout le monde et pour moi, je suis content de ma performance, donc ouais, perdre seulement 37 secondes face à Remco dans le contre-la-montre, c'est plutôt bien pour moi.
Voilà, c'est plutôt bien pour moi, nous dit Jonas Vingegaard, qui est donc troisième à 1:15 au classement général. Peut-il espérer encore se refaire, remonter ce handicap? C'est toujours la même question qu'on se posait déjà au soir du Galibier. Va-t-il régresser? Va-t-il progresser?
La fameuse troisième semaine. Il a dit que son pic de forme sera en troisième semaine. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cyril. Je te vois faire ta légendaire
on attendra la troisième semaine pour savoir s'il y a des pics. Hein. Mais je comprends que... Parce que en dehors de tout ce qui est de la com, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui est honnête, qu'est-ce qui est malhonnête de dire, qu'est-ce qu'il faut cacher, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, la seule chose, c'est qu'il sait au départ du tour qu'il ne sera jamais au niveau où il était l'an dernier ou il y a 2 ans. Bon. Donc quand il perd 33 secondes... finalement, et comme disait Jérôme, il s'attendait peut-être à perdre beaucoup plus, se retrouver à 1:15. Finalement, c'est bien. Et c'est pour ça qu'on ne le sent pas déçu, parce que ses performances sont peut-être meilleures que celles qu'il attendait. Et c'est vrai qu'après la montée du Galibier et après ce contre-la-montre, il n'est qu'à une 15. Ce qui ne veut pas dire que ou en troisième semaine, il va éjecter Evenepoel, Roglic et Pogacar. Mais il est dans un timing de course qui est relativement bon par rapport à ses espoirs de départ.
Très bien, un petit mot sur Roglic. Qu'a-t-on à dire de Roglic? Il termine troisième de l'étape, il n'est pas largué, mais bon, il est battu quand même par Poggi, par...
Un grand dessous, mais bon, c'est un pas petit grand dessous,
ouais. Bah, ouais. Il fait du Roglic, hein, pour l'instant. Il est là, mais il n'est pas au niveau des tout meilleurs, donc il est toujours en embuscade, mais il perd toujours un petit peu de temps, toutes les étapes. Au Galibier, il était vraiment limite. Voilà, pour moi, je l'ai dit avant le départ, c'est sa dernière chance de gagner le Tour, à mon avis.
Oui.
Donc pour l'instant il est un peu juste. Il reste encore un peu de temps, mais
il a encore une chance là, franchement. Tu y crois?
Alors non, j'y crois pas. J'y crois pas, c'est clair. Mais il a encore une chance. Il est qu'à 1:36. Après, est-ce que j'y crois? Non.
Très bien. On a donc vu les quatre premiers, les quatre fantastiques. Hein, voilà, c'est un groupe très très fermé. Donc qui ont tenu leur rang. Ce qui n'a pas été le cas de bien d'autres. Quelles ont été les plus grosses déceptions du jour? Mis à part Wout van Aert, mais on le sait, il a été blessé gravement au mois de mars. Quels sont ceux qui visaient le classement général et qui aujourd'hui prennent une belle déculottée, Cyril? Tu en as noté quelques-uns, je crois.
Ben, j'en ai noté quelques-uns. Bon, vous avez Rodriguez qui se retrouve à 2:30 au classement général, le leader de Ineos.
C'est pas le chrono, c'est pas son truc. Hein.
C'est pas la plus grosse déculottée.
Il est à 2:31 en général. Van Aert, on l'appelle. Eric Mas qui est passé l'an dernier, qui a abandonné le Tour le premier jour et qui là déjà a perdu 2 minutes sur le contre-la-montre et qui est à 6:27.
Et
le
leader pareil de pour
Félix
Gall.
Félix Gall surtout, c'est lui qui est le gros perdant du jour.
Après, vous avez Bernal, donc je crois que c'est la fin des illusions. Il ne reviendra plus à son meilleur niveau. Il est déjà à 5:25 au classement général. Et puis, Félix Gall, qui là, s'est complètement scratché. Il finit à 3 minutes dans l'étape contre la montre. Et au classement général, il est à plus de 6 minutes, 6:06. Et le leader de Decathlon, AG2R, ne figure plus parmi les coureurs capables de venir même dans le top 10.
C'est pas la fête quand même pour Decathlon, AG2R, qui a réalisé un début de saison exceptionnel, mais qui disait tout va jouer sur le tour. Oui. C'est là qu'on jugera notre saison.
Et sachant qu'il visait le podium. Hein.
Ouais. Alors, personnellement, moi, j'y croyais pas du
tout. Le top 5.
Le top 5, je croyais pas du tout. Mais c'est vrai, on en a déjà parlé. Ils font une saison incroyable. Ils ont gagné les 2 titres au championnat de France. Mais tout va jouer sur ces 3 semaines. Et pour l'instant, ça s'en mange mal. Et puis leur leader, faut oublier. Maintenant, faut partir à la chasse aux étapes. C'est pas facile non plus. Pour finir juste sur les déceptions, Ayuso, pour moi, grosse déception. Ouais. Même s'il n'allait pas forcément, c'est équipier de Pogacar, bien sûr. Mais pour moi, il passe au travers de son chrono, 1:18 sur 25 km. Lui qui est quand même un prétendant un jour à gagner le tour. Ouais, ça fait l'addition un peu salée aujourd'hui.
Alors, ça va pas très fort.
Il y a une autre déception quand même. Ouais. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est Amiraï qui finit à 1:42.
C'est pas un leader, mais effectivement.
Et surtout à 50 secondes de Kevin Vauclin.
Alors on va en parler.
Et là, pas par rapport au premier français ou pas, mais par rapport à la sélection des Jeux.
Oui, alors ça ne va pas très fort pour Decathlon et G2R, ça ne va pas très fort non plus pour la Groupama FDJ, donc avec la déception pour Stefan Kung qui aurait pu vraiment faire un podium aujourd'hui.
Oui, mais Grégoire fait un très bon chrono.
Ouais. Voilà, c'est l'avenir du cyclisme français. Ouais. Au même titre donc que Kevin Vauclin, qui lui termine sixième de cette étape. On se souvient de lui pour avoir remporté la deuxième étape du Tour, au bas de la descente de San Luca. Sixième à 51 secondes seulement d'Evenepoel. C'est une très grosse satisfaction. On va l'écouter, Kevin Vauclin. Ravi, évidemment, d'être dans le top 10 d'un chrono. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un Français à pareille fête dans un contre-la-montre.
Bon, pas trop compte encore, c'est fou, ouais, et encore 52 secondes à choper Remco, mais ouais, je suis dans les temps, quoi. On voit mon temps dans les temps intermédiaires et on voit mon temps dans le top 10, même si je me suis fait avoir pour 7 dixièmes pour le top 5, ce qui est un peu dommageable, mais ouais, je pense que je réalise pas encore trop ce qui se passe là. Après voilà, je pense que c'est dans la continuité de la victoire d'étape, c'est qu'on court pas stressé, avec l'envie et l'envie de bien faire, de profiter au maximum. Comme j'ai dit, je voulais profiter de ce chrono. C'est pas que je me mettais pas la pression pour le chrono, vraiment profiter de ce public et tout ça, et c'est ce que j'ai fait, et c'est là où mes jambes m'ont dit, on les sent plus et on peut aller de l'avant.
Il est dans l'euphorie, Kevin Vauclin, depuis le début de ce tour, Cyril. Hein.
Oui, on le sera à moins vainqueur d'une très belle étape et de très belle façon. Et là, il confirme au niveau de ce contre-la-montre ses progrès. On l'avait déjà vu au niveau du championnat de France, mais pas que. Et là, il confirme qu'il est le coureur d'avenir français.
Alors, l'avenir, c'est quoi pour Kevin Vauclin ? C'est jouer le classement général d'un grand tour ? Non, mais je pose la question. Quand tu termines sixième d'un chrono, quand tu es capable...
Est-ce que c'est le prochain, c'est le successeur de Bernard Hinault ?
Oh, je crois qu'il sera même mieux que Merckx.
Non, bien sûr que plus tard, il sera amené à faire ça. Mais d'abord, les courses d'une semaine. Faut pas aller trop. Et d'abord, les courses... Personnellement, moi, je suis presque plus impressionné par son chrono que par sa victoire d'étape. Alors, la victoire d'étape,
oui, parce
ça
que
prend
c'est
une
vraiment
autre
l'épreuve
dimension.
De vérité, le chrono. C'est l'épreuve.
Et puis, putain, sixième d'un chrono du tour, c'est énorme sur un parcours comme ça, vraiment un parcours
spécialiste. C'est pour ça
spécialiste.
Que je te pose la question.
Oui,
quand tu termines sixième d'un chrono du tour,
on peut dire aujourd'hui que c'est un spécialiste du contre-la-montre.
Bien sûr.
Bah oui,
il devient coureur complet. D'abord, il va se concentrer, je l'espère, sur les courses d'une semaine, des Paris-Nice, des Dauphiné, des Tirreno, tout ce qu'il veut. Et ensuite, il ira faire des grands tours. Dans un deuxième temps, brûlons pas les étapes et allons pas lui mettre de la pression inutile.
On en saura beaucoup plus quand on aura fait les grandes étapes de montagne, s'il essaye de les jouer.
Oui. Bah déjà, va-t-il essayer ?
Déjà, la première étape de montagne, il a quand même terminé très très loin, ne serait-ce que, on va dire, du peloton principal. Quoi.
Ouais, donc, c'est vrai qu'il a pris un tir. Alors là, ça c'est. Alors il a pris un tir, la première étape, mais c'est le profil, le tour, comment il était dessiné, avec la chaleur, une première étape très dure, ça ne sera pas toutes les années comme ça. Et là, c'est vrai que ça se payait cash si on démarrait le tour des fois. On passe 3-4 jours à l'hôtel avant, on a du mal à mettre en route. Il suffit qu'il y ait un tour où c'est une étape un peu moins compliquée. Voilà, il aurait pris un peu moins cher. Maintenant, est-ce qu'il va s'accrocher? Voilà, ça c'est pas sûr.
Bien sûr, parce qu'il est déjà loin.
Bah, année, ouais. À sa place, alors, j'essaierai pas de m'accrocher. Ouais.
Moi, je suis persuadé que dans l'étape du Galibier, il avait déjà le contre-la-montre en tête. Non seulement il avait le contre-la-montre en tête, mais il avait déjà, à travers ce contre-la-montre, les jeux. Donc la première étape de montagne, il a déjà gagné son étape Cocorico. Je lève les pieds, je donne pas un coup de pédale tant que j'arrive pas sur le contre-la-montre. Et puis il avait aucun intérêt à s'accrocher. Oui. Il va pas s'amuser à aller.
Non, mais je dis pas jouer le général évidemment cette année. Je parlais de l'avenir à plus ou moins long terme. Donc pour Kevin Vauclin, en tous les cas, l'avenir à court terme, ce seront les Jeux Olympiques. Il a frappé un grand coup aujourd'hui. Il était, on le sait, en concurrence avec Bruno Armirail qui termine loin derrière lui. A priori, Arnaud, la liste de Thomas Vauclair sera annoncée lundi.
Lundi 16h.
Il devrait y être.
Après, on laissons sélectionneur Thomas Vauclair le temps de nous l'annoncer. Il y aura quatre garçons.
On en a trois du coup. On a Cosnefroy,
on imagine trois,
Alain Philippe,
ouais.
Vauclin. Bon, on peut faire les paris.
Ouais.
Hein, ça vous va comme première préliste ?
Les trois premiers, je suis assez d'accord.
Et le quatrième alors ?
Grégoire ?
Grégoire ?
Bah, de toute manière, ça va se jouer entre Grégoire, Madouas, bon, Armirail, du coup, qui nous semblerait hors jeu, et un quatrième qui, là, m'échappe dans l'absolu. Mais je pense quand même que
Christophe Laporte.
Christophe Laporte, bon, je sais pas trop si Christophe Laporte. Enfin, j'en sais rien, en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Vauclin, en tout cas, par rapport à Armirail, tu gagnes quand même la possibilité, si tu l'alignes dans cette sélection, puisque si tu l'alignes sur le chrono, tu es également obligé de l'aligner sur la course en ligne, tu gagnes la possibilité de devenir crédible si tu l'envoies en échappée et de faire rouler les équipes derrière, peut-être un petit peu plus qu'avec un Bruno Armirail.
Alors, je n'ai pas la réponse, mais est-ce qu'on peut prendre des coureurs qui sont en dehors de la préliste ?
Oui. Après,
dans les autres disciplines, vous avez des quotas à faire.
Oui. Après, il y a des choses qui se sont déjà passées. Enfin, il y a eu notamment des essayages de tenues qui ont déjà eu lieu depuis un petit moment. Et là, pour le coup, il n'y avait que 7 ou 8 coureurs qui étaient concernés.
Vous savez pourquoi je pose cette question ?
Oui. Enfin, non.
Tu penses à qui ?
Mais si, parce qu'il y a un coureur qui actuellement est en net regain de conditions physiques. On commence à voir arriver dans les sprints. Pourquoi pas Arnaud Démare ?
Ah bon ?
Il n'y aura pas de train hein, là, pour les Jeux Olympiques. Hein.
C'est, ah, mais c'est quand même assez dur, le parcours.
Mais c'est quand même, oui. C'est quand même quelqu'un qui peut... Le parcours me semble un peu compliqué, quand même.
Peut-être plus un Brian Cocard, s'il fallait prendre quelqu'un de rapide, j'imagine.
T'as quand même trois fois la côte de Montmartre dans les 50 derniers kilomètres, ça va piquer.
Après, attention, cette année, en plus, ça va être spécial. Il y a 4 coureurs par nation, ça va être un tout petit peloton.
80 coureurs au départ.
Voilà, 80 coureurs au départ. Il ne faudra pas se faire piéger, parce que s'il y a une échappée avec les grosses nations, est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir quelqu'un qui est capable, je sais pas si le leader sera Cosnefroy, Alaphilippe ou comment ça va se passer, mais aussi quelqu'un qui est capable de protéger les leaders, de rouler un petit peu. Il faudrait voir un Christophe Laporte, il n'a pas l'air au top pour l'instant, mais ça aurait pu être son rôle par exemple. Mais c'est vrai que Romain Grégoire, même pour préparer l'avenir, ça me paraît être une idée pas mal.
Je suis désolé, on ne va pas aux Jeux Olympiques pour préparer l'avenir. On va aux Jeux Olympiques pour gagner.
Pour une médaille. On n'est pas obligé de gagner. On peut terminer 3
C'est quand même mieux de gagner.
Du moment que tu as une médaille,
l'important, c'est de participer. Non, c'est pas ça, les Jeux Olympiques.
Non, mais l'important, c'est de faire un podium.
L'important, c'est de participer.
Pour monter la France au tableau des médailles.
Bon, je vais demander une licence.
C'est pas du tout le même esprit. Hein. Les Jeux Olympiques, c'est les médailles. Hein. Évidemment, la médaille d'or compte plus que les autres. Autre Français, en deux mots, parce qu'on va devoir rendre l'antenne. Aux anges, aujourd'hui, c'est Julien Bernard qui, à l'image de Thibaut Pinot l'an dernier, avait eu droit à son virage Pinot. Là, aujourd'hui, il y a eu 100 mètres, pas de virage, mais de ligne droite.
La montée, Julien Bernard, avec tous ses fans qui étaient là, puisqu'il habite juste à côté, il est installé en Côte d'Or depuis peu. Il y avait son épouse qui attendait avec le petit Charles dans les bras, et il a pu faire un bisou, et s'arrêter vraiment 5 secondes et repartir au milieu de la foule. Il y a même un gendarme qui pensait qu'il y avait une émeute qui était en train de se dérouler, qui venait faire du ménage, et puis finalement, il a pu repartir et terminer son chrono. Il avait la banane.
Eh ben, on écoutera sa réaction demain dans l'intégrale Tour de France. Oui.
Il y a un autre Français que vous ne croiserez pas le 12 juin l'année prochaine, place de Jaude à Clermont-Ferrand. Il espérait fumer la pipe pour ses 100 ans ce jour-là.
Ah ouais.
Et il ne sera pas là.
On en parlera aussi.
Puisque Raphaël Gemignani est mort aujourd'hui.
Il nous a quittés à 99 ans. Lui qui a été le patron de Jacques Anquetil, avec qui il a remporté plusieurs Tours de France. Eh bien... Ciao Raphaël, c'était un grand bonhomme du Tour de France, et Cyril nous en parlera demain. Il a évidemment bien connu Raphaël Gemignani. Merci messieurs, on se retrouve demain à 14h pour la prise d'antenne, pour cette 8e étape.
Oui,
Jérôme,
exactement.
Ça va où demain?
Oui, j'ai travaillé toujours. Ça va à Colombelles et Deux-Églises.
On va voir le général de
On a vu le petit Charles aujourd'hui dans les bras de
et
sa maman. Ce sera le grand Charles demain.
Bonne soirée à tous, à demain, 14h, pour l'intégrale Tour de France.
Retrouvez l'After Tour tous les jours pendant le Tour de France
de 19h à 20h sur RMC.